Et merci à vous de votre fidélité. Vous êtes sur Médien et sur médien.com. Et ce matin, comme on vous l'annonçait en début d'émission, on s'intéresse à la dyspraxie chez l'enfant. C'est ce trouble développemental neurologique. Des premiers signes jusqu'au traitement, on fait le point avec notre spécialiste, docteur Jamila Walit. Bonjour docteur.
Bonjour madame.
Alors vous êtes spécialiste en neuropsychologie, je le rappelle, vous êtes à Tanger. Alors d'abord, comment peut-on définir donc cette dyspraxie et on parle d'enfants essentiellement?
Merci d'abord à vous et merci Médien. Et merci d'avoir abordé ce sujet parce que ça touche le 6% des enfants qui ont un âge inférieur à 11 ans. Oui. Dont 70 à 80%, c'est les garçons la plupart, d'accord, plus que les filles.
D'accord.
Et c'est un trouble qui provoque la perte des mouvements habiles, c'est-à-dire les habiletés, un mouvement habile, une coordination de mouvements. Et il n'est pas dû à une incapacité pour, ou un problème grave du tonus musculaire ou postural ou un problème intellectuel. C'est un problème de déconnexion, bien sûr. C'est neurodéveloppemental, comme vous l'avez bien dit. C'est une déconnexion pariéto-frontale. C'est une lésion pariétale postérieure gauche. Et c'est ça qui donne ce trouble. Elle affecte la planification et la mise en marche des tâches liées aux composantes motrices. Ayant des mouvements moteurs, bien sûr, des mains, des bras, de la marche, jusqu'à l'articulation du langage. D'accord. Il y a plusieurs types. Il y a la dyspraxie idéomotrice, c'est-à-dire cette incapacité à copier les gestes, à copier les mouvements.
D'accord.
Par exemple, des tâches simples comme se coiffer, c'est une tâche très simple. Et par exemple, se mettre les chaussures. Pas de boutonner ou déboutonner. Ça, c'est un autre trouble dyspraxie idéatrice. C'est-à-dire l'enfant est incapable de se boutonner la chemise, de se brosser les dents, d'accord.
Mmh.
Et il y a aussi la dyspraxie qui passe inaperçue aussi, c'est oromotrice. C'est-à-dire que c'est celle qui coordonne les mouvements pour la prononciation, pour articuler. C'est des enfants qui ont des troubles du langage. On a l'impression qu'il y a un retard du langage. Autre, par exemple, on le confond avec les dysphasies, alors que c'est une dyspraxie. Mais les orthophonistes le notent bien, parce que l'enfant, lorsqu'il veut parler, c'est comme un jargon. Il a la séquence articulaire ne passe pas d'une façon, comment on dit, fluide. D'accord.
Oui.
Et il y a l'autre qui est très intéressante, on la voit beaucoup chez les enfants, c'est la dyspraxie constructive. Quand on donne ça, vous pouvez le voir chez les petits enfants, lorsqu'on donne les Legos, c'est la chose la plus simple à monter. On a l'impression qu'ils sont incapables de monter les Legos, de faire des constructions. D'accord, quoique le cerveau, il comprend la tâche, mais il n'arrive pas à la mettre en marche.
D'accord.
Ça, c'est un petit peu en grande ligne la définition de la dyspraxie.
D'accord.
Et on sait, c'est une lésion de l'hémisphère, donc de l'hémisphère gauche, de la partie pariétale postérieure gauche, qui est... C'est un dysfonctionnement, si on veut dire.
Donc, j'allais
D'accord.
venir justement aux causes. C'est un dysfonctionnement, donc, docteur, essentiellement.
Essentiellement, oui. Oui, mais de plus, on ne va pas parler du traitement tout de suite. Les causes, il y a plusieurs causes. Donc, parmi les causes que vous avez bien signalées, c'est neurodéveloppemental, parfois au stade fœtal. D'accord.
D'accord.
Il y a des mamans peut-être qui ont pris des médicaments pendant cette phase ou des infections qu'ils ont eues, des infections peut-être bactériennes ou virales qui sont passées aussi inaperçues des souffrances néonatales, des causes épileptiques, aussi les épilepsies, on en a parlé, il y a des épilepsies infantiles qui passent aussi inaperçues. L'enfant, on a l'impression qu'il ne prête pas attention. qu'il est turbulent alors qu'il a une épilepsie derrière. Donc, les facteurs génétiques aussi, on retrouve dans les familles, les antécédents aussi.
Ouais, ça peut être héréditaire alors.
Il y a des hérédités, oui. Donc, il y a ce facteur aussi héréditaire. De plus en plus, la science avance, de plus en plus on va vers ce sens génétique aussi. Il y a des facteurs de... des petites mutations qui passent d'une génération ou des générations saltatoires, c'est-à-dire pas les parents directs, mais les grands-parents, les arrière-grands-parents qui ont eu peut-être cette dyspraxie et qui n'ont pas été, parce que c'est des gens normaux et l'environnement ne le sollicite pas, c'est-à-dire peut-être qu'ils n'ont pas été scolarisés, parce que c'est l'école qui relève le problème. Lorsque l'enfant est scolarisé, donc les maîtres remarquent que l'enfant ne marche pas comme les autres, il y a une certaine, on a 20 enfants, 24 enfants en classe et on remarque qu'un, il
ne suit pas.
Est différent. Oui. Voilà, il ne suit pas le rythme de la classe. Et donc, toujours, c'est l'école qui nous roule.
Oui.
D'accord.
Mmh. Alors, les plus grandes difficultés au quotidien pour ces enfants et pour les parents également qui accompagnent ces enfants, puisque l'entourage également en souffre, il faut le rappeler, docteur.
Tout à fait. Les parents en souffrent énormément. Et c'est pour cela que c'est une prise en charge multidisciplinaire. Il faut prendre en charge les parents tout d'abord pour qu'ils acceptent. Parce
oui.
que c'est une... Il faut travailler l'acceptation des parents. De plus en plus, ils acceptent le plus tôt possible, le plus tôt le traitement sera plus efficace. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont dans le déni. Ils te disent non, voilà, c'est les maîtres qui n'ont pas compris. Ou ça, le maître n'a rien contre votre enfant de 3, 4 ans, 5 ans, mon Dieu. D'accord. Donc, de plus en plus, les parents acceptent. C'est-à-dire, il faut vraiment des thérapies avec une intervention. Comme un genre de psychoéducation pour les parents, pour qu'ils comprennent tout d'abord le trouble de leurs enfants, que c'est lorsqu'on intervient tôt, l'handicap sera moindre, d'accord, avant que l'enfant devienne, parce que les mettre dans le bain, si on travaille avec l'orthophoniste ou le psychomotricien, par la suite qui va travailler le reste de la semaine, il faut persévérer parce que c'est de plus en plus on persévère avec ses enfants. Dans le traitement, il est plus efficace parce qu'il faut répéter et répéter et répéter mille fois les actes motrices. Si on ne les répète pas, on ne va pas attendre, on va voir l'orthophoniste, par exemple, les enfants qui ont des dyspraxies oromotrices. L'orthophoniste, combien va travailler? 2 heures par semaine, 3 heures, et le reste de la semaine, c'est les parents qu'il faut éduquer pour qu'ils mettent en place encore oui. le travail commencé par le spécialiste.
Alors justement, ce travail commencé par le spécialiste, comment ça se passe en termes de traitement?
Tout d'abord, il faut évaluer avant de
oui. n'importe comment posez-vous le diagnostic, docteur Walid?
Alors, le diagnostic, il faut tout d'abord commencer par un médecin. Moi, je le dis toujours, il faut commencer par le neurologue pour voir est-ce qu'il n'y a pas un autre...
D'accord.
Pour éliminer tout ce qui est physique et neurologique.
Mmh.
Imaginez s'il y a une épilepsie derrière. Mmh. Et l'enfant, peut-être, il est passé peut-être à son enfance par une encéphalopathie, je ne sais pas, qu'il a laissé des séquelles cérébrales. Il faut que le neurologue le voit tout d'abord. On va pas rééduquer. Et quoi qu'on rééduque, on va dire non, l'enfant n'avance pas, c'est pas possible. Et donc, on va culpabiliser le kiné peut-être, le psychomotricien et celui qui intervient. D'accord? Non, l'enfant n'avance pas. Il faut traiter s'il y a quelque chose cérébral à traiter ou quelque chose métabolique à traiter. Et par la suite, le neuropsychologue, parce que avant de commencer par il faut un bilan neuropsychologique. Ce bilan, tout d'abord, il évalue l'intelligence de l'enfant. Il faut voir est-ce que l'enfant, il a toutes ses facultés cognitives qui marchent en tant que mémoire, perception, attention, toutes ces composantes cognitives sont bien. Et il n'y a que ce problème de construction visio-spatiale parce qu'il y a des tests où on évalue ce manque d'habileté constructive ou ce manque d'habileté, cette déconnexion entre le mouvement, entre ce qu'on dit et le mouvement mené par l'enfant. Par la suite, quand on termine cette évaluation, donc on adresse vers vers le psychomotricien ou l'orthophoniste. Ça dépend du genre de dyspraxie diagnostiquée.
D'accord.
Et les parents doivent être toujours présents. Moi, je ne comprends pas. Parfois, on laisse à l'écart les parents, alors que c'est les plans sont les premiers impliqués. Alors, il faut qu'ils voient comment le psychomotricien travaille pour qu'il continue ce travail à la maison.
Alors, pour tous les parents qui nous écoutent et qui se posent la question quant à la prévention, peut-on prévenir donc la dyspraxie? Et puis, quels seraient, pour terminer, vos conseils à tous ces parents qui nous écoutent?
Ah, la prévention, je suis là toujours pour la prévention. Je dis aux parents, avant qu'ils aient un enfant, pour prévenir. On ne peut pas être parfait, mais prévenir, si on sait qu'on a des maladies chroniques, les conjoints, tous les deux, doivent faire un bilan, c'est-à-dire un bilan complet, aller chez un médecin pour voir est-ce qu'ils ne sont pas porteurs de rien que des infections, elles sont très graves. Il y a des infections qu'on porte et qu'on n'en s'en rend pas compte. Les bilans sont indispensables. D'accord, la prise de médicaments pendant les éviter. Il y a des mamans qui fument, il y a des mamans qui te... D'accord, donc tout éviter toutes ces choses malsaines durant la grossesse. Et puis finalement, durant l'accouchement, qui est l'étape finale et qui provoque beaucoup de problèmes, aussi bien pour les neurologiques, beaucoup, beaucoup de problèmes, parce qu'il y a cette souffrance néonatale. Si le médecin conseille, je ne sais pas pourquoi les parents ont peur, si le médecin conseille une césarienne qui n'ait pas peur, parce que c'est le médecin qui le sollicite, il y a une cause derrière, d'accord? Et pour que l'enfant ne souffre pas. Pendant l'accouchement, lorsque ça se complique, souvent il y a des choses inévitables, mais c'est un investissement notre enfant. C'est un grand investissement. Le plus grand, aller faire des visites au gynécologue pour prévenir avant de guérir, parce que c'est une lourde tâche. Travailler avec un dyspraxique, ce n'est pas uniquement un an ou deux, trois mois. C'est des années jusqu'à ce que l'enfant s'autonomise vis-à-vis de ses mouvements coordonnés. D'accord. Et les plus petits, si on a déjà un enfant dans la prévention, aller chez le pédiatre. Et les parents, il y a des parents qui sont très observateurs. Lorsque l'enfant tarde à marcher, parce qu'il y a des étapes du développement qui sont très intéressantes. L'enfant ne doit pas tarder plus d'un an à marcher. On va attendre entre 11 mois et 13, 14 mois. Lorsqu'il tarde au-delà, il faut voir avec le médecin pourquoi il a tardé, parce que ça, c'est parmi les signes qu'on voit. L'enfant tarde à parler, l'enfant tarde à marcher. Et donc, on est dans la comparaison. On dit, voilà, il ressemble à son oncle, sa tante, parce qu'il a tardé à marcher. Non. Chaque individu, il y a des différences individuelles énormes. On ne se ressemble pas. On ne doit pas prendre à la légère un enfant qui ne marche pas encore, qui ne parle pas encore, et l'interaction sociale aussi, parce que ces enfants aussi, lorsqu'ils se sentent handicapés, entre guillemets, lorsqu'ils se sentent qu'ils ont ce déficit, ces difficultés, ils se dépriment aussi, il y a des anxiétés. Ces enfants présentent aussi des troubles du comportement, parfois des agitations, parfois une anxiété. Ils refusent d'aller à l'école parce qu'ils se voient...
Parce qu'ils sont mal compris, d'abord.
Exactement, ils se voient différents des autres enfants. Ils sont parfois même marginalisés. Les autres enfants rigolent sans avoir l'intention qu'ils font du mal à cet enfant. Mais le mal se fait. D'accord, donc il faut être très vigilant et faire attention à ce que le maître, notre professeur ou notre maître nous dit. Ne pas dire non, notre enfant est intelligent. En consultation, ils nous entendent, ça veut dire mon enfant est intelligent, il sait manipuler le téléphone. Mais le téléphone, les smartphones, ils sont très faciles à manipuler. Il n'y a rien d'intelligent là. Il faut suivre ce que le maître t'a dit. Parce que c'est une intervention multidisciplinaire, aussi bien par les maîtres des écoles, aussi bien par les psychomotriciens, les psychologues et le médecin traitant s'il y a lieu de traiter.
Docteur Jamila Walid, je rappelle que vous êtes spécialiste en neuropsychologie à Tanger. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à toutes nos questions sur Médias.